Radio Okapi. Okapi. Okapi Service avec Marcel Ngombombala. Okapi.
Mesdames et messieurs, bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Très heureux de vous retrouver ce matin dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Au menu de ce magazine d'aujourd'hui, que faut-il faire pour augmenter les fonds en faveur de la protection des forêts du bassin du Congo? Nous aurons deux invités pour en parler. Le premier déjà en ligne, Hilaire Monvoudi, membre du groupe Deuxième Son des cloches pour les forêts de la RDC. Hilaire Monvoudi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et après un autre sujet, après le flash d'info de 11h heure de Kinshasa, on va parler de comment prévenir les conflits intercommunautaires en RDC. Gary Sakata, député national élu de Kouamouth et auteur du projet de la loi contre le racisme, le tribalisme et la xénophobie, sera notre invité. Il aura également l'abbé David Louaka, coordonnateur de la commission des Sozennes, justice et paix. C'est DJP en sigle. Voilà le menu pour le magazine Okapi. Service de ce jour, Polydor Basfunga est à la mise en nom de Tatima pour réaliser et coordonner ce magazine. Présenté par Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Mataki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Okapi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Okapi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Que faut-il faire pour augmenter les fonds en faveur de la protection des forêts du bassin du Congo? Voilà le premier sujet qui va ouvrir ce magazine avec notre invité Hilaire Monvoudi, membre du groupe Deuxième Son des cloches pour les forêts de la RDC. Selon les experts en environnement, un tiers de la population mondiale est exposée à des catastrophes naturelles telles que les inondations, la rareté ou l'abondance de pluie, des fortes chaleurs, pour ne citer que ces catastrophes-là. Et ce sont les communautés locales qui sont vulnérables à ces effets néfastes liés au phénomène du changement climatique. La RDC se présente comme pays solution contre les effets du changement climatique à l'échelle mondiale, indiquent les experts. Cependant, la mobilisation de ressources pouvant aider les communautés dont la survie dépend des forêts du bassin du Congo sont souvent faibles, d'après plusieurs observateurs. Que faut-il donc faire pour augmenter les fonds en faveur de la protection des forêts du bassin du Congo? Notre invité déjà en ligne, en tout cas le tout premier, membre du groupe deuxième son de cloche pour les groupes de la RDC, pour les forêts de la RDC, j'allais dire. Si vous êtes intéressé, vous avez des questions, le numéro d'appel, c'est le 081-890-63-94 ou encore le 099-706-63-94. Voilà, Hilaire Monvoudi, vous êtes membre du groupe Deuxième Son de cloche pour les forêts de la RDC. Pour ceux qui ne connaissent pas alors ces groupes, si vous voulez bien nous parler un peu de ce groupe Deuxième Son des cloches pour les forêts de la RDC. Pourquoi un deuxième son?
Merci beaucoup. Je suis très ravi d'être sur les antennes de Radio Okapi.
Oui.
Et parler de sujets comme celui de l'environnement qui nous préoccupe non seulement nous en RDC, mais à travers, c'est à l'échelle mondiale que le problème se pose.
Oui.
Je suis Lermont-Voudi, comme vous l'avez dit. Je suis géographe, aménageur du territoire et aussi environnementaliste. Deuxième son de cloche, en fait, c'est quoi? C'est une initiative. C'est une approche pour prendre part aux préoccupations qui sont les nôtres, non seulement ceux du gouvernement, mais également de la communauté internationale en ce qui concerne la détérioration de notre planète qui nous est si chère, le seul milieu de vie que Dieu nous a donné pour y partager notre existence. Notre planète souffre de beaucoup de maux, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure. Alors, deuxième son de cloche, c'est une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire que c'est une participation, c'est une initiative des scientifiques que nous sommes, avec ceux qui ont voulu bien partager le souci que le monde éprouve, et nous avons dit, il n'y a pas que le gouvernement qui doit se préoccuper, il y a aussi le citoyen lambda que nous sommes, qui devons également contribuer à cet effort. C'est comme ça que, vu ce que nous savons et ce que nous pouvons, nous nous sommes associés à cet effort, à celui d'experts internationaux à travers le monde, pour pouvoir réfléchir en ce qui concerne particulièrement le bassin du Congo qui est le nôtre, et ce qui lui revient comme tâche, comme atout, et sa contribution à travers le globe. C'est comme ça que nous avons constitué ce groupe pour réfléchir et proposer des solutions palpables à pouvoir résoudre le problème qui se pose aujourd'hui, c'est celui du financement qui a été décidé à l'échelle mondiale pour soutenir le puits carbone que nous sommes, nous, la RDC, avec nos forêts tourbières et mangroves, et par contre, dont nous ne bénéficions pas suffisamment. Et c'est comme ça que nous avons créé donc deuxième son de cloche.
Voilà, donc on va justement parler de cette mobilisation de ressources pouvant aider les communautés dont la survie dépend des forêts du bassin du Congo. Parce que jusque-là, selon les observateurs que vous êtes également parmi ceux-là, on se rend compte que les fonds sont faibles. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée des fonds qui sont aujourd'hui alloués à justement la RDC, qu'on appelle Pays Solution, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques? Et qu'est-ce qu'en principe ces fonds devraient, s'il faut parler de l'augmentation, ces fonds devraient aller jusqu'à combien? Juste une estimation.
Écoutez, d'abord il faut définir le contexte.
Oui.
Pour lequel nous sommes en train de parler pour le moment.
Oui.
Il s'agit de changement climatique.
Oui.
Beaucoup, peut-être, ne savent même pas ce qu'est le changement climatique.
Oui.
Le climat, d'abord, c'est quoi? Le climat, c'est la succession de temps au-dessus d'un lieu. Le temps, c'est quoi? Ce sont des éléments qui nous permettent de vivre décemment. Il y a la température, il y a la pression, il y a les vents, il y a le soleil. Il y a l'oxygène qui doit circuler, et donc tous ces éléments contribuent à la vie. Une fois que l'un de ces éléments est en difficulté, et donc la vie devient également difficile. Lorsque ce temps se suit sur des lieux, c'est alors qu'on parle du climat. Et le climat, il nous est très important parce qu'il nous permet donc d'assurer notre existence dans la nourriture, dans les activités, dans la circulation. Et le climat, il se définit au-dessus de nos têtes, donc dans l'atmosphère. Ses implications sont également sur les sols, sur les sous-sols et dans son environnement. Les vents qu'il porte avec l'humidité de part en part, ils nous apportent de bienfaits. Et quand ils ne sont pas, donc, la vie ça en souffre, bien entendu. Alors, ici, on parle de changement climatique. Ça signifie que le temps au-dessus de nos espaces est en train de subir des changements. Et il ne nous permet pas de vivre décemment. Alors, que faut-il faire? D'où vient que ces temps-là changent au-dessus des espaces, et notamment à travers le monde? C'est parce que l'homme s'est employé à développer des technologies, des attitudes, des caractères et tout un tas de changements qui ont permis à ce que le temps en souffre. Et lorsque le temps en souffre, c'est nous qui payons également les frais. Donc, il y a un danger. Il y a un danger parce que la menace qui porte sur le climat est directement lié à notre santé. une fois que cela, notre santé n'est pas. Donc même nos activités empathiques aussi, nous ne savons pas à nous employer sur le plan économique et social. Et donc c'est généralement les pauvres qui payent en premier les frais. Et donc le changement climatique apporte des catastrophes. Les catastrophes sont bien définies dans l'augmentation du gaz carbonique. Et donc celui-là, il n'est pas bien élaboré. Et alors, il devient difficile d'assurer l'existence sur la planète. Et donc, c'est la vie biologique sur la Terre qui en pâtit. Quelles sont les solutions? Il faut donc séquestrer ce gaz carbonique qui est néfaste à la vie. Et donc, il est conséquent de diminuer l'oxygène. Et donc, il faut amorcer donc une autre transition. Parfois, une fois que nous sommes devant des situations comme ça, il faut que nous nous y habituions. Autrement, c'est-à-dire développer des manières différentes par rapport aux habitudes pour que nous assurions notre existence normalement. La RDC joue un grand rôle, un très grand rôle à l'échelle planétaire, parce que la RDC est un pays, un vaste pays. Il ne suffit pas qu'il soit vaste, mais il faut encore comprendre l'importance de la RDC à travers le monde.
Oui.
La RDC, c'est un puits carbone, et donc il faut améliorer il faut des améliorations environnementales. Qu'est-ce que la RDC à travers le monde? 155,5 millions hectares de forêt tropicale. La forêt tropicale, c'est une forêt multivariée, très importante pour la régulation du climat et donc de tous ces éléments dont je viens de vous citer. C'est-à-dire que les forêts de la RDC représentent pour le bassin du Congo. Le bassin du Congo, c'est tous ces réseaux hydrographiques dont l'exutoire n'est autre que notre fleuve. Et au nord comme au sud, nous avons appris que nous sommes à cheval sur l'équateur. Et donc, nous seulement, le bassin du Congo, qui comprend également les autres pays africains, nous avons 60% des forêts. Et donc, notre territoire contient 67% des forêts sur le plan national. Et nous avons un réseau hydrographique très dense. Et ce réseau hydrographique permet à ce que la vie, donc les eaux douces qui sont les plus nécessaires à la vie humaine, sont largement concentrés. Les tourbières, en fait, c'est la tourbe. C'est la tourbe. Lorsque nous sommes dans des marécages, pour donner une illustration beaucoup plus simple,
oui,
nous avons des terres humides, humectées, donc nous appelons ça la boue. En fait, c'est le stade primaire de transformation des végétaux et de la vie sur Terre pour conduire à la fosse septique qui n'est autre que les gisements des hydrocarbures. Et donc, nous avons encore la possibilité, avec notre tourbe, dont on appelle la tourbière, lorsque nous sommes dans un gisement, notre tourbe contribue beaucoup au captage de ces CO2, donc d'anéantir.
Tout à fait, monsieur Hilliard. Donc, c'est à partir de tout cela qu'on parle aujourd'hui de la RDC Compagnie Solution. Mais alors, comment avoir de retombées, des dividendes par rapport à cela? Parce qu'on sait que les pays développés, hein, qu'on considère comme les pays pollueurs, vont toujours continuer à polluer.
Les pays pollueurs devraient cesser de polluer, et comme ils se sont entendus, de diminuer les effets polluants.
Oui.
Mais les éléments de développement ne leur permettent pas de reculer. Malheureusement, vous savez aujourd'hui que avec la crise de gaz qui est connue à cause de la guerre de l'Ukraine et de la Russie, l'Occident a recouru frénétiquement à l'exploitation de charbon pour s'offrir encore le gaz alors que ces gisements ont été fermés. Et il ne reste que la triennale. Ce sont les trois grands ensembles que sont le bassin du Congo, le bassin de l'Amazonie et le bassin de l'Asie du Sud-Est, qui est l'Indonésie. Pourquoi nous appelons à l'augmentation de la facture pour la protection de nos forêts? Il y a des injustices récurrentes qui ne sont vraiment pas pardonnables. Parce qu'en fait, lorsque vous avez une ressource en eau pour se laver, un bébé prendra peut-être deux verres, un jeune homme de petite taille prendra peut-être la moitié du seau. Mais imaginez que quelqu'un qui pèse 200 kilos, avec toute sa taille, vous lui donniez également un verre d'eau pour se laver. Donc, il ne sera pas satisfait. Nous sommes aujourd'hui le pays solution parce que, après le déclin du bassin de l'Amazonie, avec ce que nous savons, entre autres, qu'il y a eu des incendies, mais aussi, le Brésil avait finalement fait volte-face pour dire, écoutez, vous ne me donnez pas l'argent, moi j'exploite mes ressources. Donc la RDC est restée intacte parce qu'il y a eu des mesures gouvernementales dont les moratoires ont empêché à ce que l'exploitation soit désordonnée et anarchique. Et donc nous gardons encore beaucoup de nos ressources forestières, tourbières et mangrovières. Malheureusement, donc la communauté internationale qui sait très bien que l'apport en oxygène pour la vie sur la Terre dépend beaucoup plus de la RDC qui en fournit beaucoup et un plus grand espace, et plutôt en plus grande quantité. Nous avons 140 gigatonnes pour distribuer à travers le monde cette ressource afin que la vie soit dessus. Et 140 gigatonnes, les scientifiques ont trouvé qu'il nous faut 3
Mais monsieur Leur, s'il faut parler, parce que là quand vous parlez des gigatonnes, excusez-moi pour le petit public qui vont se perdre, si on doit parler du financement, si on parle du financement, là les gens vont comprendre facilement, c'est-à-dire par rapport à ce pays solution, par rapport à tout ce qu'on nous demande de protéger les forêts, de manière à lutter contre les changements climatiques, qu'est-ce que la RDC reçoit aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle aurait vraiment dû recevoir, ça va aider les gens à comprendre un peu pour que ce soit les enjeux de la COP 27 en Égypte.
La proportionnalité.
Oui.
J'ai parlé tout à l'heure de l'eau et la proportionnalité de l'eau pour se laver. Donc aujourd'hui, nous sommes ceux-là même qui absorbons la plus grande quantité d'oxygène.
Oui.
Les cotisations à travers le monde qui ont été décidées dans les différentes COP avec les accords de Paris devraient en fait tenir compte de la proportionnalité. Celui qui absorbe le plus et qui a le plus de disponibilité devrait également avoir la plus grande proportion de moyens pour lui permettre de lutter et de conserver de manière rationnelle la forêt au bénéfice de tous, ce qui n'est pas le cas. Je vous donne un petit exemple. Dans ce qui a été donné entre 2008 et 2017, qui a été disponibilisé pour la consommation, la protection de forêts. L'Amazonie, qui est le troisième, par rapport à la hiérarchisation, qui est le troisième puits à carbone, a reçu 55% de ses fonds. Je ne parle pas en termes de millions calculés du point de vue économique, non, je parle de la proportion. Et le Brésil, qui, lui également, est le second aujourd'hui après la RDC, a reçu 34% de ses fonds.
Oui.
Et le bassin du Congo, dont la RDC représente 67% des forêts, le bassin du Congo a reçu, on aurait dit, 11%. Et je vous dis, sans que cela ne vous fâche, la RDC n'a rien reçu.
Voilà, c'est ce qu'on voulait avoir comme précision, donc ça c'est déjà clair. Alors permettez-nous d'ouvrir les standards, parce qu'il y a déjà des auditeurs qui sont en ligne, et puis on va poursuivre avec vous. Nous avons Bienvenue qui nous appelle de Kinshasa, Malonga qui est également à Kinshasa. Si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, bienvenue. C'est votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. Nous parlons de ce qu'il faut faire pour augmenter les fonds en faveur de la protection des forêts du bassin du Congo. Il est on vous dit, membre du groupe Deuxième Son de Cloche pour les forêts de la RDC, et notre invité. Si vous voulez intervenir, composez les 081-890-63-94 ou les 099-706-63-94.
Okapi Retro. Faut revivre le tube des années 60, 70 et 80.
Balingi, babina, musique Africa.
Africa.
Rumba, pop, disco, slow. Des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine.
Amen.
lundi et mardi à partir de 23h et le dimanche à 21h.
Bienvenue, nous appelle de Kinshasa. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, Radio Café.
On vous écoute, bienvenue.
J'ai bien suivi l'émission, je crois, à ce qui concerne la mobilisation des fonds sur l'atténuation de l'environnement, la RDC doit faire un boucher doublé. Je crois si ces institutions, les pays qui ont accepté de compenser l'argent par rapport à notre forêt, n'est pas à mesure de libérer leur part de fonds, la RDC doit chercher d'autres moyens. Aujourd'hui, l'invité a donné toutes ces statistiques-là. C'est encore mieux, mais quelle est la part de responsabilité de notre pays? Je crois que ces statistiques-là sont anciennes. Aujourd'hui, nous voyons nos forêts aussi sont dégradées. Le gouvernement en soi ne met pas assez de moyens pour protéger les forêts. Mais comment vous-même, vous n'êtes pas à mesure de protéger les forêts en question? Vous allez dire aux institutions internationales, voilà, nous avons telle quantité de forêts, nous avons ceci, nous avons cela, pour que vous nous financiez. Et alors que tout à l'heure, là, ça fait pas longtemps, nous venons de voir notre pays lancer les appels d'offres sur l'utilisation ou la production des produits fossiles. Ça pourrait être aussi un autre point de blocage pour que ces institutions-là ne débouche pas les fonds, parce que en quelque sorte, comme si notre gouvernement est en contradiction avec ses ambitions. On dit un pays solution pendant que vous vous lancez encore dans la production de pétrole, qu'on connaît tous, qui va contribuer à la dégradation de notre environnement. Je crois que le gouvernement doit arrêter une stratégie réelle par rapport à cette politique-là. C'est encore plus mieux que d'aller dans un sens comme dans l'autre, comme si on ne sait pas soit qu'est-ce qu'on est en train de faire.
Voilà, merci, bienvenue d'avoir appelé de Kinshasa. On reste toujours à Kinshasa. On va retrouver Malonga. Bonjour Malonga.
Oui, bonjour Marcel, bonjour notre invité, bonjour à tous ceux qui nous suivent à ce moment ici, Marcel.
On vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Marcel, je crois que nous traitons souvent ce sujet relatif à l'environnement. Vraiment, c'est plus souvent que... La vraie définition de l'environnement, c'est moi et tout ce qui m'entoure. C'est ça l'environnement. L'environnement, d'abord, commence par la personne elle-même. Si la personne connaît son importance vis-à-vis de son entourage, en tout cas, il sera responsable de le maintien de bon environnement. Qu'est-ce que je veux dire là-bas? Si nous voulons protéger notre forêt, il faut que nous-mêmes, d'abord les responsables des forêts, nous sachions que, en tout cas, cette forêt va nous produire et nous garantir notre survie. Mais si nous-mêmes, d'abord, nous ne savons pas l'importance de ce que nous voulons faire, ça sera plus grave. Vous voyez qu'entre nous, il y a ceux qui s'opposent au plan de l'humanité, que le Congo est le patrimoine mondial. Il y a d'autres qui se disent, on ne nous paye pas, on ne fait où? On doit nous payer d'abord. Mais il faut voir la cause majeure, l'intérêt général de cette forêt que nous déclarons protégée. Si nous arrivons là, c'est par là où les grands pollueurs, puisque toutes les personnes d'abord sont pollueurs. Ce n'est pas seulement que nous pouvons accuser les grands pollueurs. Oui, ils sont les grands. Mais chaque personne pollue son environnement. Puisqu'à chaque fois qu'il existe, il travaille, il produit quelque chose qui pollue l'environnement. Alors si la conscience de tout et chacun s'intéresse à la protection de l'environnement, notre forêt sera bel et bien protégée. Encore, je vais terminer à dire ceci. Il faut que les autochtones de cette forêt, nous tous sommes les Congolais, mais nous ne sommes pas aux alentours de la forêt. Il y a les forestiers congolais. Il faut que ces forestiers congolais-là, leurs besoins soient valablement répondus. Puisqu'ils vivent de cette forêt. Ils sont là pour cette forêt. S'ils ne laissent pas, ils laissent travailler dans cette forêt, qu'est-ce qu'ils vont vivre? Alors toutes ces recommandations qui sont nécessaires à ces autochtones-là doivent être vraiment répondues et doivent être réalisées. Si une fois réalisées, ce sont les sentinelles de cette forêt. Ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Allemands, les Français, non. Mais la population qui vit dans cette forêt doit être bien protégée est bien gâtée pour qu'elle protège cette forêt comme il faut. C'est ça la solution.
Merci.
Mais on ne pouvait pas les imposer, on ne pouvait pas les condamner.
Merci, merci Malonga d'avoir appelé de Kinshasa. On revient à notre invité, Hilaire Mouvoudi. Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Peut-être que nous sommes allés trop vite en besogne. J'étais en train de donner lecture de ce que les termes qui sont utilisés et parfois ce que nous vivons. Bien entendu, on n'a pas tout le temps. On peut organiser d'autres rencontres au niveau de la société civile qui est l'une des solutions pour arriver à obtenir ce que nous désirons. Oui, c'est vrai. Monsieur Bienvenu a demandé à la RDC de mettre des bouchées doubles. C'est-à-dire qu'on ne doit pas nécessairement compter aux aides, aux apports extérieurs, mais il faudra que nous-mêmes soyons en mesure de résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Et M. Malonga a étalé le fait que le problème de l'environnement ne soit pas un problème individuel, mais l'environnement, il l'a défini comme étant un problème de l'ensemble, moi et les autres. C'est vrai aussi. Et à ce sujet-là, que moi et les autres, que les autres viennent pour en comprenant que la solution au problème qui est le leur vient également de la RDC, c'est comme ça qu'ils ont proposé. C'est pas la RDC qui a proposé nécessairement. Ce sont eux qui ont trouvé qu'ils sont en difficulté énorme et que sans la RDC, donc leur vie s'est filochée également. Quant au gouvernement, il a pris un certain nombre de mesures, bien entendu. Je ne suis pas en train de faire le plaidoyer des mesures du gouvernement. Il y a certes des erreurs comme des erreurs humaines, mais il faudra voir les choses de beaucoup plus près par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'il faudra donc faire? Il a soulevé le problème de l'ouverture à l'exploitation future du pétrole congolais, et que cela n'était si cela n'était pas en contradiction avec ce que nous prenons ici. Hélas, non. La question qui est posée, c'est celle de savoir comment est-ce que nous devons augmenter les fonds pour la lutte contre les effets de changement climatique.
Tout à fait.
Et donc, j'ai parlé tout à l'heure que le charbon en Europe est revenu en surface. Là, c'est bon. Personne ne bouge. Je n'ai entendu aucun son de cloche différent de celui qui a été l'objet même de l'interdiction de l'ouverture de ces mines. Cependant, c'est quand le Congo ouvre en vente, met en vente les blocs pétroliers, eh bien, c'est partout où on s'agite. Le monde entier s'agite. Mais est-ce que c'est des bonnes fois? Je ne pense pas que ce soit des bonnes fois. Entre autres solutions pour la RDC d'arriver à couvrir les frais qui sont nécessaires à son développement socio-économique, c'est d'exploiter ses ressources naturelles. Nous en avons. Nous avons la forêt, nous avons les tourbières, nous avons les mangroves. Il n'y a pas que ça. Le Congo est le réservoir des minéraux de transition énergétique, dont la liste est très longue par rapport au tableau de Mendeleïev. Je crois que nous couvrons le tout. Et le Congo a aussi un réseau hydrographique. C'est-à-dire que si on pense que la forêt est taillée parce que nous devons nous procurer du charbon de chauffage, des cuisines, mais l'alternative, c'est d'avoir de l'énergie électrique qui doit provenir d'autres sources. Nous avons le soleil, bien entendu, comme partout ailleurs, mais nous en avons en abondance. Mais aussi, nous avons des sources de cours d'eau extrêmement importants et que nous devons mettre également en exploitation pour y construire des barrages hydroélectriques. Nous avons aussi les barrages qui existent. Et à cause de l'exploitation de la forêt, vous ne vous imaginez pas combien les grues sont égarées à travers le fleuve, les radeaux qui sont transportés pour aller abîmer l'ouvrage qui est celui du barrage Dinga. Et c'est partout ailleurs comme ça aussi. Mais nos ressources hydrauliques peuvent nous permettre de développer un réseau ici important des barrages hydroélectriques pour nous produire des systèmes pour tout le monde. Et donc, si la communauté internationale a pensé qu'il faudra qu'elle compense à notre protection de nous donner des moyens financiers, eh bien, il faut qu'elle donne ça. Nous le réclamons parce qu'ils l'ont produit. Et nous avons conservé nos forêts, nos ressources. S'ils ne le donnent pas, c'est ce que nous faisons. Nous recourons à nos ressources. Et donc
ça paraît, d'après vous, ça paraît également de l'une des solutions, hein, au cas où, parce que lorsque vous avez parlé des injustices, et moi, je m'en tiens en tout cas aux chiffres que vous avez donnés, par rapport aux proportions, quand on parle de 11% pour la RDC, avec tout ce que vous avez présenté, et comme ce que nous avons comme ressources, face à tout ce qui est lié au changement climatique, au rôle qu'on peut bien jouer grâce à nos forêts, et vous avez bien raison de dire qu'il faut vraiment rapidement que tout ce qui a été décidé pour la RDC sur en matière de financement, qu'on puisse vraiment passer à la matérialisation.
Deuxième son des cloches, appui d'exploitation de ressources au cas où les promesses faites ne sont pas tenues. La RDC ne peut pas être un commandeur à aucun point sur le plan économique, sur le plan social. En principe, notre pays ne peut pas être un cimentaire. Ça, c'est exclu. Et lorsqu'on nous fait voir, on nous fait miroiter qu'on donne de l'argent pour que nous conservions nos forêts, alors qu'on n'en donne pas du tout, nous ne devons pas attendre que des criers affamés. Nous ne sommes plus à l'époque de l'esclavage où, pour les rendre dociles, les énergies humaines qui étaient transportées ailleurs, il fallait les affamer, afin qu'ils suivent leur bourreau docilement. Nous sommes au 21e siècle.
Exactement.
Je pense que le respect, la considération doit être mutuelle. Et donc, le gouvernement, le Congo a des responsabilités. C'est dans ce cadre-là que le deuxième son de cloche n'a pas attendu d'être des animateurs du gouvernement pour agir. Mais nous agissons en tant que citoyens congolais, conscients, intelligents et capables d'apporter des solutions, une contribution, apporter la pierre à l'édifice. C'est tout le monde qui peut le faire. Je suis très content des amis qui interviennent. Ils apportent des solutions aussi. Mais nous devons les canaliser pour que cela trouve la concrétisation sur le terrain.
Exactement.
Donc, oui. Voilà.
On va s'arrêter par là avec vous, Hilaire Mouvoudi. Vous êtes membre du groupe Deuxième Son des Cloches pour les forêts de la RDC. En tout cas, merci de toutes ces précisions et de cet éclairage que vous avez apporté à nos chers auditeurs, en tout cas de la fréquence de la paix, sur ce qu'il faut faire pour augmenter les fonds en faveur de la protection des forêts du bassin du Congo. On espère vous retrouver prochainement. Voilà, il y a un autre invité par rapport à ce sujet, Guy Kanjemba, qui est coordonnateur du groupe de travail climat RED, qui est également RED Plus, qui est également en ligne. Monsieur Guy Kanjemba, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ravi de vous retrouver encore pour parler changement climatique, pour parler surtout de la RDC qui est considérée comme pays solution, mais pour beaucoup de Congolais, ce n'est qu'un slogan, pays solution, pays qui doit jouer un rôle pour tout ce qui est lié au changement climatique avec tout ce qu'on a comme forêt. Mais malheureusement, pour ce qui est des dividendes financiers, apparemment, rien n'est encore fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire pour augmenter les fonds en faveur de la protection des forêts du bassin du Congo, une véritable mobilisation de ressources pour la RDC?
Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est vrai qu'on a vraiment on n'a pas encore mobilisé suffisamment de moyens, mais je crois qu'il y a tout un mécanisme qui est mis en marche. Donc, nous avons déjà une stratégie nationale, RED, au niveau de la RDC.
Oui.
Donc, il y avait beaucoup de conditions qu'on nous avait proposées pour arriver à mobiliser les ressources. Nous les avons respectées dans un premier temps pour produire la stratégie nationale et un plan d'investissement. Et après, on se retrouve toujours dans de grandes réunions où il n'y a pas toujours de décision forte par rapport au financement direct au niveau international. Donc, le plaidoyer doit continuer. Mais aussi, on doit dire que la mobilisation doit être politique au niveau interne. Et évidemment, comme a dit le prédécesseur, que je remercie, on ne parle pas ici de dons, on ne se comporte pas comme des gens qui attendent ou demandent. Nous avons des droits, d'être rémunérés à juste titre par rapport à nos potentiels forestiers. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, je pense qu'on a fait beaucoup de choses. Il faut continuer le plaidoyer. Mais il faut aussi utiliser, ce qui nous manque beaucoup plus, c'est utiliser, notre position stratégique. La position stratégique, c'est-à-dire qu'il faut, je ne dis pas qu'il faut faire comme le Brésil, il faut faire une pression au niveau international pour que on ait des réponses. Et à ce niveau-là, je crois que il y a un travail qu'on a fait à notre, au niveau de la RDC pour avoir le plan d'investissement et pour avoir les contributions déterminées nationales aujourd'hui qui plafonne notre ambition à 48 milliards de dollars. Alors, ici, il reste de faire un plaidoyer fort, de s'associer au niveau du bassin du Congo pour que nous puissions faire la pression, pour que nous puissions faire un plaidoyer très fort à un haut niveau, de sorte de manière à ce qu'on puisse considérer le rôle que nous continuons à jouer. Ce qui est un peu gênant aussi, c'est parce que la crise en Ukraine, par exemple, a poussé un peu les amis de à rentrer encore dans ce qu'on avait, on voulait éviter avec les questions de gaz, avec les histoires de nucléaire. Donc nous on pense qu'il faut absolument que nous avons déjà les instruments, nous avons notre contribution de l'économie nationale, nous avons la stratégie, et nous devons donc continuer à amener les États à prendre des décisions fortes, parce que on se limite à des effets d'annonce dans beaucoup de COP. On a fait beaucoup d'espoir à la COP de Paris, mais après, il y a eu des tergiversations. À Glasgow, on pensait qu'on aurait déjà des réponses sur le CEDEAO, mais je crois qu'à la COP 27 à Sharm el-Sheikh, on espère qu'on va encore plaider pour que nous puissions avoir des réponses, disons, afin de concrètes par rapport à notre ambition pour avoir des moyens.
Mais vous avez suivi un auditeur qui est intervenu, qui est bienvenu, qui a appelé de Kinshasa, et il a estimé, d'après lui, que le fait d'avoir lancé un appel d'offres pour l'exploitation des sites pétroliers et gaziers, ça peut constituer aussi une espèce de blocage.
Bon, oui et non. Effectivement, c'est pas une bonne... Nous pensons, nous continuons à croire que ça peut être un levier pour faire la pression.
Oui.
Parce qu'il faudrait, à un certain moment, parce que quand on se fatigue, c'est comme toute personne, quand on se fatigue, on recourt pour quel mécanisme. Donc, à ce niveau-là, je crois que...
Essayez de vous déplacer un peu, monsieur Guy Kanjemba. Je pense que vous êtes dans un endroit où vous pouvez vous déplacer, parce que là, la communication, c'est gâte avec votre ligne. Le temps de vous déplacer, je rappelle à ceux qui viennent de se joindre à nous sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous parlons de ce qu'il faut faire pour augmenter les fonds en faveur de la protection des forêts du bassin du Congo. Vous savez, aujourd'hui, la RDC est considérée comme pays solution contre les effets du changement climatique à l'échelle mondiale, d'après les experts, mais malheureusement, pour ce qui est de dividendes financières par rapport à tout ce que la RDC fait comme effort pour protéger ses forêts financièrement, les experts et les observateurs estiment que la RDC ne se retrouve pas financièrement. Alors, on a Guy Kanjemba, coordonnateur du groupe de travail Climored, qui donne aussi son avis par rapport à ces sujets sur comment on doit faire pour augmenter les fonds en faveur de la protection des forêts du bassin du Congo. J'espère qu'il s'est dépassé, ça va bien maintenant. Alors, Guy Kanjemba, je parler de sites pétroliers, gaziers, pour lesquels on a lancé un appel d'offres pour exploitation. Il y a un auditeur bienvenu qui est intervenu, qui a estimé que cela peut constituer un obstacle pour, en tout cas, amener le pays à pollueur à mobiliser des fonds pour la RDC. Il y a des légers soucis avec la ligne de Guy Kanjemba. On va le retrouver tout à l'heure. Mais je rappelle le numéro des contacts si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix et vous voulez intervenir par rapport à ces sujets sur ce qu'il faut faire pour augmenter les fonds en faveur de la protection des forêts du bassin du Congo. Composez les 081-890-6394 ou encore les 099-716-6394.
Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Voilà, avant de retrouver notre deuxième invité, Guy Kanjemba, coordonnateur du groupe de travail Climat Red Plus, on va accorder la parole à une dame qui nous appelle de Kolwezi. Il s'agit de Madame Claudia. Bonjour Madame Claudia.
Bonjour Monsieur Marcel.
On vous écoute Madame.
Ok. Avant de parler des forêts, je voulais un peu savoir si ces forêts existent réellement. parce que selon les révélations faites par Greenpeace il y a quelques mois, 60% au fait des forêts du bassin du Congo ont déjà été vendues. Alors je voulais un peu avoir un éclaircissement là-dessus. Et aussi notre préoccupation. En fait, sans compter sur la fond de l'extérieur. Qu'est-ce que nous, la RDC, nous faisons pour conserver notre environnement ainsi que notre biodiversité? Parce que si nous voyons vraiment les réalités sur le terrain, on ne fait rien. Est-ce qu'on doit uniquement attendre des financements venant de l'extérieur pour, par exemple, pour conserver notre biodiversité, par exemple, même pour lutter contre la pêche ici? Et concernant même autre chose, quand on attribue des titres ou des parcelles, une personne avant de construire la maison, on voit des gens couper tous les arbres dans la parcelle. Même pour sensibiliser la population quant à ça, il faut réellement attendre des financements venant de l'extérieur. Nous, même Congolais, on ne peut pas même mener des petites actions pour protéger notre environnement. C'est un peu ça. Souci.
Merci, Madame Claudia, d'avoir appelé de Colosie. Justin, vous êtes à Bounia. Bonjour, Justin.
Bonjour, Monsieur Marcel. Bonjour à notre invité qui est au plateau de Radio Capi.
On vous écoute, Justin.
Oui, Monsieur Marcel, j'ai en tout cas une préoccupation, mais avant que je pose ma question, j'ai une suggestion par rapport à la protection, par rapport à la thématique, Monsieur Marcel. Vous savez que la RDC, c'est un pays riche qui a toutes les potentialités du monde. Mais nos dirigeants sont mal intentionnés. Nous avons des forêts, nous avons des rivières, nous avons des lacs. Mais ça a donné quoi? Depuis que la RDC soit un pays indépendant, c'est la première question. La deuxième question, monsieur Marcel, ce n'est pas aussi la première fois que nous parlons de ces sujets. Ça fait plusieurs fois, mais il n'y a aucun changement. Ce n'est qu'une théorie. Je ne sais pas si qu'est-ce que l'invité peut dire pour que pour qu'on cesse maintenant de parler, qu'on puisse vivre maintenant la réalité des choses. Je dis et je me remercie et bonne journée.
Voilà, merci Justin d'avoir appelé de Bounia, il me semble, il est à Bounia, voilà, c'est bon. Alors Guy Kajemba est de nouveau en ligne, voilà, oh, vous avez perdu un moment, ça nous fait plaisir de vous retrouver. Alors il y a eu Madame Claudia qui a appelé de Colosi également, Justin qui est à Bounia. Alors Madame Claudia, elle est un peu sceptique, et lorsqu'on parle de forêt du bassin du Congo, elle se dit, est-ce que ces forêts existent réellement, parce qu'apparemment d'après elle, il y a une bonne partie de ces forêts, elle a parlé de 60%. Pour ça qu'ils sont vendus. Et il demande également que fait-on au niveau déjà de la RDC pour en tout cas notre biodiversité, savoir conserver nos forêts. Et il y a Justin également qui se dit non, c'est plus une question de manque de volonté des autorités congolaises pour faire en sorte que nos forêts non seulement soient protégées, mais qu'on puisse arriver à mobiliser les fonds, parce qu'il a comme l'impression on répète la même chose et puis rien n'est fait. Monsieur Guy Kajemba.
Oui, je peux d'abord dire ici que nous avons une responsabilité, nous avons une responsabilité historique, donc nos forêts ne sont pas des menaces pour nous. Ce sont des forêts qui existent, qui ont été conservées par les communautés locales et autochtones, et ce qui fait que ces forêts continuent à être utiles pour la communauté internationale. Donc, en termes de dire qu'il y a des pertes de forêts, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas aussi une menace. Ce que nous demandons, nous, c'est que ces forêts-là, tant qu'ils soient, ils sont debout, qu'ils soient prises en considération. Maintenant, la question de savoir, on revient sur la même chose, très bien, mais il faut se dire que nous n'avons pas pris conscience à temps. Je pense que c'était 10 ans après le Brésil que on a commencé à réfléchir sur nos forêts, et autour de 2009-2008 avec le processus RED qui avait commencé à RDC. Et que donc, pendant tout ce temps-là, on a, il y a eu du travail, mais bon, comme on disait là, c'est pas toujours facile, c'est au niveau de tous les bassins et au niveau même international où les pollueurs hésitent à mettre de l'argent. Et là, ce que j'ai dit, que nous devons avoir des gouvernances, nous devons avoir des leaders qui doivent qui font la pression, et comme je disais tout à l'heure par rapport au pétrole, c'est aussi une genre de pression, nous ne sommes pas d'accord avec ça, mais on s'est dit que c'est aussi la façon de faire la pression pour qu'ils comprennent que si on continue avec des discours comme ça, on risque d'abandonner cette voie-là qui est une voie salutaire pour l'humanité. Et donc, je crois qu'il faut pas se fatiguer. Nous, on ne se fatigue pas. Nous, on sait que jusque-là, on a besoin, le monde a besoin de maintenir la température à 1,5 degré et que nous avons les leviers. Donc, à nous, à nos leaders, de travailler sérieusement, pas en termes de mandat, parce que c'est ce qui pose problème. Il y a deux problèmes à ce niveau-là. Donc, d'abord, on se présente en position de faiblesse, d'une part, et d'autre part, on ne donne pas de garanties d'une gestion saine d'un minimum. Nous avons eu, maintenant ici, on est à 700 millions de financement.
Oui.
Sur les 1 milliard qui sont dans notre plan d'investissement. Et donc, c'est tout ça, ces deux niveaux-là. Et je crois que on est en train de s'organiser pour qu'à la COP27, on puisse remettre encore la question sur la table et faire pression. Et nous espérons, avec le leadership actuel, qu'on sera accompagné, parce que il faut absolument qu'il y ait des messages forts du leadership national par rapport à ces engagements-là.
Et vous estimez que tout ce qui s'est fait maintenant comme pré-COP 27 pour ce qui est de la RDC, vous pensez que ça peut également constituer une solution?
Absolument, parce que absolument, c'est déjà une avancée terrible. C'est la première fois que la RDC soit associée à l'organisation de pré-COP. Et donc, c'est déjà ça. Je suis encore à Yangami, ex-Yangami, c'est un professeur de Yangami, on a parlé avec les scientifiques. Effectivement, parce qu'il y avait aussi un problème de données. Hein, des données scientifiques qui peuvent permettre à ce que les décideurs puissent avoir vraiment entre ses mains les outils ou les données scientifiques qui démontrent quatre sur table que nous sommes une solution et comme solution on doit nécessairement mettre du paquet, mettre de l'argent pour vivre dans les alternatives et de continuer à creuser. Et donc, à la COP 27, je crois que, à la pré-COP, déjà, qui sera quelque chose, je crois que le ministre, on aura le temps encore de parler de ça. J'espère que notre gouvernement va aussi le temps pour continuer à exiger que les finances puissent suivre, que l'argent puisse suivre le défaut qu'on constate.
Voilà, merci beaucoup Guy Kanjemba. Je vous rappelle que vous êtes coordonnateur du groupe de travail climat Red Plus. Vous intervenez depuis Kisangani. On espère vous retrouver en tout cas après la clôture de ces travaux pour qu'on puisse échanger sur tout ce qui est comme données scientifiques récoltées et puis tout ce qui est comme échange qui ont eu lieu là-bas avec d'autres experts internationaux. Qu'est-ce que ça constitue comme... qu'est-ce que ça va donner comme plus-value dans ce qui est vraiment des efforts de la RDC pour ce qui est de la mobilisation des fonds, parce qu'il ne faut pas qu'on parle de pays solution sans qu'en réalité qu'il y ait des fonds alloués à la RDC pour tous ces efforts de protéger les forêts dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Merci beaucoup à Guy Kanjemba, on espère vous retrouver prochainement.
Oui, c'est moi qui vous remercie.